Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 20 octobre 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. 14 rafales français actuellement cloués au sol pour avoir été cannibalisés, selon Florence Parly. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, Téhéran et Moscou poursuivront leur coopération stratégique pour aider à établir une sécurité durable dans la région. Les crimes d'Israël ne doivent pas rester impunis, insiste l'ambassadeur permanent d'Iran auprès des Nations Unies. Et puis une double explosion a visé un bus de l'armée à Damas, en Syrie. 14 militaires sont morts et plusieurs autres blessés. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Téhéran et Moscou poursuivront leur coopération stratégique pour aider à établir une sécurité durable dans la région. C'est selon le chef d'état-major général des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri. Le général en chef a rencontré de hauts responsables militaires russes lors d'une visite continue en Russie. Il dit que les deux parties ont discuté de l'élargissement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme international, qui a été une préoccupation majeure en Irak, en Syrie, en Afghanistan et dans la région du Caucase. Le général Borrelli a également évoqué les futurs contrats d'armement entre Téhéran et Moscou. Le général iranien a déclaré que toutes ces questions seraient discutées en détail dans une commission militaire conjointe prévue dans 3 mois à Téhéran. L'Iran se félicite de la paix et de la stabilité en Irak. Le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a déclaré mardi, lors d'une réunion avec l'ancien premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi, que l'Iran est toujours favorable à la paix et à la stabilité en Irak. Amir Abdollahian a déclaré que les deux pays sont des amis et des frères durables. Il a ajouté que les relations politiques, économiques et culturelles des deux pays doivent se développer plus que jamais. Il a salué les mesures prises pendant le gouvernement d'Al-Mahdi visant à renforcer les relations bilatérales, lui assurant que l'Iran est déterminé à renforcer davantage ses relations avec l'Irak. L'Iran privilégie toujours la paix et la stabilité en Irak et son rôle constructif dans les interactions régionales, dans le respect des décisions politiques du peuple irakien, a ajouté le haut diplomate iranien. Abdel Mahdi a également évoqué les innombrables points communs de l'Iran et de l'Irak lors de la rencontre, les considérant comme une grande capitale au service d'une proximité toujours plus grande entre les deux nations et gouvernements. Les crimes d'Israël ne doivent pas rester impunis. L'ambassadeur permanent d'Iran auprès des Nations Unies, Majid Tartravanchi, a déclaré que le régime sioniste doit être tenu responsable des violations de droit international des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés et que de tels crimes ne doivent pas rester impunis. Tartravanchi s'exprimait mardi lors de la session du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Moyen-Orient et la question palestinienne. Il a déclaré que la situation actuelle en Palestine occupée est préoccupante et que la persistance de ces circonstances est une source de préoccupation pour la communauté internationale. Tartravanchi a déclaré que la crise dans les territoires palestiniens occupés ne prendra fin que si les droits indéniables du peuple palestinien sont reconnus et restaurés. Il a ajouté que la seule solution à cette crise est la tenue d'un référendum conforme aux réalités historiques et aux droits internationaux et avec la participation de tous les Palestiniens, y compris les musulmans, les chrétiens et les juifs. Ailleurs, Tartravanchi a répondu aux accusations portées contre l'Iran par le représentant du régime israélien à l'ONU. Il a catégoriquement rejeté les allégations, disant que le représentant de Tel Aviv jouait le rôle de victime dans le but de détourner l'attention de la communauté internationale des crimes du régime contre les Palestiniens. Tartravanchi a noté que les allégations d'Israël contre le programme nucléaire pacifique de l'Iran sont totalement infondées, car la nature civile des activités atomiques de l'Iran a été à maintes fois vérifiée par l'AIOA. L'Iran insiste sur la rédaction de la constitution syrienne sans ingérence étrangère. Le conseiller principal du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, lors d'une réunion avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Syrie, a souligné la nécessité de rédiger la constitution syrienne par le biais d'un dialogue national sans ingérence étrangère. Ali Asrar Khaji a rencontré Geir Otto Pedersen, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Syrie, mardi soir 18 octobre, au sujet de la 6e réunion du comité constitutionnel de la Syrie qui se tient à Genève. Au cours de la réunion, M. Pedersen, qualifiant de positive ce cycle de pourparlers, a souligné « Des pourparlers constructifs ont eu lieu entre l'opposition et le gouvernement syrien » et nous espérons voir des progrès dans ce cycle de pourparlers. Saluant les résultats positifs de la 6e réunion du comité constitutionnel syrien, il a souligné le soutien de la République islamique d'Iran aux efforts du représentant spécial des Nations Unies. La rédaction de la constitution syrienne doit se dérouler sans ingérence étrangère à travers le dialogue national syrien, a-t-il insisté. Le représentant iranien a également souligné la nécessité de lever les sanctions oppressives contre le peuple syrien et appelé les Nations Unies à travailler pour attirer l'aide humanitaire et fournir des installations pour la reconstruction de la Syrie. L'ambassadeur du Ghana en Iran a appelé à l'essor des relations irano-ghanéennes. Le Ghana et l'Iran ont la capacité de se soutenir mutuellement dans divers domaines, a-t-il déclaré. Le diplomate a poursuivi lors d'une réunion avec le gouverneur de Hamedan à l'ouest de l'Iran. L'Iran et le Ghana ont des relations chaleureuses et bonnes et ces relations devraient être élargies. Se référant à la capacité du secteur privé, il a déclaré « Le secteur privé est une bonne opportunité de renforcer les relations politiques et la Chambre iranienne de commerce a contribué à ce domaine de coopération ». L'Iran considère le Ghana comme le premier pays d'Afrique à développer le commerce extérieur et cela est très important pour nous, a-t-il dit. Il y a quelques heures, une double explosion a visé un bus de l'armée à Damas, la capitale syrienne. 14 militaires sont morts et plusieurs autres blessés. La télévision syrienne dit que les deux bombes ont explosé alors que le bus traversait sous un pont. Un troisième a été désamorcé. Il n'y a eu aucune revendication de responsabilité immédiate. Damas est témoin d'actes de violence comme celui-là de temps en temps, surtout depuis 2018, lorsque l'armée a repris le dernier bastion terroriste principal près de la capitale. La colère bouillonne en Syrie contre la présence des forces américaines. Les résidents locaux ont refusé de permettre à un convoi militaire américain de traverser leur village dans la province nord-est de Hasaka. Les habitants en colère ont affronté les véhicules militaires américains, leur lançant des pierres et les forçant finalement à faire demi-tour et à changer de cap. Le sentiment anti-américain est élevé en Syrie. Les États-Unis ont des forces stationnées dans le nord-est. Ils soutiennent les groupes kurdes qui combattent le gouvernement syrien dans la région. Damas accuse Washington de violer sa souveraineté et de voler son pétrole. Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a affirmé que les projets de colonisation israéliens ciblent l'existence et l'identité de la population palestinienne. Le Hamas dit que les Palestiniens continueront leur résistance jusqu'à ce que les forces d'occupation soient expulsées de chaque centimètre carré de leur territoire. Il a ajouté que le projet expansionniste d'Israël finiront tous par un échec. Israël dit que la construction est déjà en cours pour doubler la population de colons dans l'est de la Cisjordanie occupée. Toutes ces colonies sont illégales au regard du droit international. Enfin, un Palestinien en grève de la faim depuis 3 mois et maintenant en soins intensifs dans un centre médical israélien. Migdad al-Kawasmeh souffre d'un système nerveux affaibli. 2 autres prisonniers qui ont commencé leur grève de la faim il y a plus de 2 mois sont également hospitalisés. Les 3 détenus ont refusé de manger pour protester contre les détentions administratives. Le système controversé permet la détention illimitée de prisonniers palestiniens sans inculpation ni jugement. Des centaines de Palestiniens enfermés dans les prisons israéliennes ont entamé une grève de la faim ces dernières semaines. L'action collective est en réponse à des mesures d'emprisonnement sévères. Les restrictions sont intervenues après que 6 Palestiniens se sont évadés de la prison israélienne en septembre. Ils ont été repris plus tard, mais l'évasion de la prison a brisé l'image de sécurité d'Israël. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Rafales français actuellement cloués au sol pour avoir été cannibalisés, selon Florence Parly. En octobre, la ministre française des armées, Florence Parly, a confirmé que 14 avions Rafales de l'armée de l'air française sont solidement cloués au sol car ils sont simplement démontés pour les pièces de rechange. Selon des données révélées en 2020, l'armée de l'air française dispose de 102 avions de combat Rafale en service. Il s'est avéré qu'au moins 14 d'entre eux ne peuvent pas être utilisés pour des vols. Ils ont été partiellement démontés pour entretenir les autres appareils de ce type. Une telle pratique est largement utilisée par les forces militaires avec un financement insuffisant. Cette inefficacité résultait de la loi de programmation militaire 2009-2014, LPM. Selon la LPM 2019-2025, l'armée de l'air française devrait disposer de 129 Rafales d'ici 2025. Pour réaliser le plan, 12 autres unités de Rafales au standard F3R ont été commandées par l'armée de l'air française. Ils devraient être livrés d'ici 2025. Paris devrait profiter des fonds reçus de la vente de 12 Rafales soutenus à la Grèce en 2021-2022 pour payer l'achat. Programmation militaire dont les prêts seront complétés par le produit de la vente d'avions d'occasion à la Grèce, qui était alors estimé à 400 millions d'euros. Malheureusement, le plan de Parly ne se réalisera pas. En conséquence, Parly déclare désormais que le contrat avec la Grèce ne sera pas utilisé pour acheter de nouveaux avions, mais aidera avant tout à restaurer les avions qui ne sont pas en état de vol. Le contrat avec la Grèce ne permet que la mise en service d'avions devenus pièces détachées. Disposant d'un budget militaire de 2% du PIB, Les forces armées françaises ne peuvent que disposer que de l'équipement et n'ont pas assez de fonds pour soutenir les capacités opérationnelles réelles. En plus de la technologie aéronautique moderne, l'armée de l'air française a besoin de techniciens et de pilotes bien formés, d'équipements modernes, ainsi que d'une quantité suffisante d'armes et de munitions. Les Français ont besoin pour remplir leur mission directe.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, dans le débat d'aujourd'hui, il est question de Riyad qui demande la médiation de Téhéran pour empêcher la progression des Houthous au Yémen. Une première, car jusqu'à présent, Riyad a tout fait pour ignorer le rôle très important et clé de la République islamique d'Iran dans la région. Alors, le sud de Marib est jusqu'ici sous le contrôle de la coalition Riyad, Washington et Londres est tombé. C'est une région clé, une province pétrolifère qui donc est sortie sous le contrôle de la coalition. Alors, jusqu'à présent, Ansar Allah a été capable de contrôler strictement par des radars la quasi-totalité du Yémen et n'arrête pas de faire tomber des drones de la coalition et même a détruit un F-15 dont le pilote a été capturé selon des informations. Des experts de questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui, tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
C'est une première au terme d'une série de chasses aux drones US spectaculaires dans le ciel de Marib, signe que la libération de cette province pétrolifère, qui abritait jusqu'ici le QG Riyad Washington Londres, est définitivement entrée dans sa phase finale. Quelques heures après la reprise par Ansar Allah d'Al-Abdiya, ce district du sud de Marib, et ce en dépit de 40 frappes aériennes, en l'espace d'à peine quelques heures, un avion de la coalition, visiblement un F-15, a été abattu par la DCA de la résistance, signe que le ciel de Marib, le théâtre cet été de l'interception et la destruction de moins une douzaine de drones US de type Global Hawk ou encore Scan Eagle, est placé désormais sous le contrôle strict des radars de la résistance ainsi que de leurs missiles intercepteurs, de type de l'avion et de la DCA qui a visé l'appareil. On ne sait rien encore, mais le pilote a été capturé vivant. L'info a été annoncée par le vice-gouverneur d'Al-Baïda, Nasser Al-Wabani, ce vendredi sur son compte Twitter, où il dit qu'il s'agit d'un avion de chasse qui avait été abattu au-dessus de la zone d'Al-Abdiya, ce qui suppose que la résistance l'a abattu en pleine opération de progression dans la zone. Au fait, les missiles 358 d'Ansar Allah, ce type de drone DCA, sont désormais pleinement actifs dans le ciel de Marib, la destruction d'un F-15 signifiant de son côté que la bulle de la défense aérienne s'étend encore davantage. Des images de ce gain militaire majeur ont fait surface dès le vendredi soir sur les réseaux sociaux qui montrent les combattants d'Ansar Allah déployés dans le centre du quartier d'Abdiya. Signe des temps, parallèlement à la publication de ces photos, des images ont mis en scène la désertion en masse des forces saoudiennes dans le sud de Marib. Des dépanneuses et du matériel militaire ont été transportés de Marib à destination de la région d'Al-Wadiya, située entre les provinces d'Hadramaout et d'Al-Jawf, limitrophes de l'Arabie saoudite. Mais quelle importance stratégique pour ce gain ? la reprise de Rabah et d'Al-Abdiya, soit deux localités du sud de Marib, réside dans le fait qu'elles se placent dans le triangle Marib, Al-Baïda, Shaba, et que leur reprise permet une totale maîtrise sur trois fronts du sud, du nord et du nord-ouest de Marib, soit un encerclement total.
Vous regardez l'émission Le Débat depuis Téhéran. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau nos deux experts des questions internationales, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue de conservatisme et bonjour à tous nos téléspectateurs.
Un plaisir de vous recevoir, Luc Michel. Un grand bonjour à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui nous joint avec depuis Paris. Bonjour, M. Hugon. Oui, M. Dortiguier, bonjour. Vous êtes géopoliticien et politologue depuis Toulouse. Merci d'être avec nous, Pierre Dortiguier.
Oui, en effet, M. Philippe Hugon n'est pas disponible maintenant. Et je suis très, très heureux, bien sûr, de participer au débat et de retrouver M. Luc Michel.
C'est un débat qui est prometteur, car il s'agit du Yémen. Ma première question va s'adresser à M. Luc Michel. Alors, la coalition Riyad, Washington et Londres a perdu la quasi-totalité du contrôle de la région du sud de Marib, une province pétrolifère extrêmement importante pour la coalition. Que dites-vous?
La guerre du Yémen, elle est en train de mal tourner les alliés occidentaux. Cette guerre qui est la seconde guerre du Proche-Orient après la Syrie, et puis comme la Syrie est issue de l'échec du soi-disant printemps arabe, elle voit vraiment le naufrage de toutes les ambitions saoudiennes. De plus en plus, donc, depuis que ce soit Sarala qui a pris le contrôle des opérations, la défaite des Saoudiens se profile. La prise de contrôle de Marib est très importante, puisque c'est la maîtrise du pétrole yéménite qui est en cause et qui va être perdue par les Saoudiens. De plus, la zone est stratégique et elle prépare une coordination parfaite des forces de Sarala. On voit que ce qu'on appelle la guérison des trois fronts iraniens au Yémen est exactement comme ça se passe dans d'autres pays. En disant particulièrement, on voit que c'est un succès, et c'est un succès qui fait reculer l'adversaire.
Oui. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Pierre Dortiguier. Qu'en dites-vous, M. Dortiguier?
Oui, en effet, je reprends la conclusion de M. Michel, qu'il s'agit là, évidemment, d'un succès, stratégique qui fait reculer l'adversaire. Il faut voir maintenant quel est le camp de l'adversaire. C'est-à-dire, vous avez d'abord, dans ce qu'on pourrait appeler les clients de l'Arabie Saoudite, qui se reposent sur elle, au Yémen, vous avez des clans qui sont très, très opposés les uns aux autres, qui ne peuvent s'unir. Et d'autre part, il y a aussi, je crois que c'est un des points importants de notre débat, une attitude différente, certainement des États-Unis, envers l'Arabie Saoudite. Cette attitude différente a été se manifestera certainement par, un lâchage de l'Arabie Saoudite, qui est toujours cette colonie américaine depuis le début, mais certainement un manque d'approvisionnement militaire et autres. Je ne crois pas que les Américains aient intérêt, avec la politique de Biden, qui suit en un certain sens la politique de Trump, ont intérêt à s'investir dans une guerre. Je crois même qu'ils pourraient aboutir, ils ont à mon avis une carte à jouer, qui est une carte malheureuse, bien sûr, c'est la division du Yémen. Je crois que ces succès sont une chose, les succès de la résistance d'Ansar Allah sont une chose, en effet, une chose qui est remarquable. Mais en même temps, disons que si les Américains et leurs alliés saoudiens sont vaincus sur le terrain militaire ou affaiblis considérablement par l'attaque des drones, de leurs drones, etc., que les attaques dirigées contre leurs drones, tout ça par la DCA et la chute de cet avion-là, de F-15, est tout à fait significatif à cet égard, ils peuvent jouer aussi une carte politique. Une carte politique qui est un peu ignoble, bien sûr, mais qui consiste à maintenir divisé le Yémen. Je crois que ces plans échoueront, mais à mon avis, nous pouvons nous attendre à la transformation de cette guerre, c'est-à-dire, disons, à ce qu'elle soit véritablement une guérilla, que l'Arabie Saoudite investisse moins dans le soutien de ses clients et que, disons, que la guerre se prolonge. C'est cela, à mon avis, qui est grave pour ce pays qui, on dit chez nous dans la presse, qu'une personne sur 8 est déplacée, qu'il s'agit là d'une situation catastrophique. Est-ce qu'il peut y avoir une solution militaire rapide? Disons qu'il le faudrait, mais je ne pense pas que cela soit le cas. Les négociations de l'Arabie Saoudite avec la République islamique d'Iran sont une chose, qui, à mon avis, doivent influencer aussi la politique de l'Arabie Saoudite et reconsidérer, disons, ce qu'elle peut de sa politique traditionnelle envers le Yémen. Je crois aussi que ces négociations sont possibles à cause de la résistance yéménite. Mais d'autre part, il faut bien tenir compte aussi de la politique américaine, c'est-à-dire de peut-être un renouveau de la stratégie américaine, une adaptation peut-être à la concurrence qu'elle a avec la Russie et la Chine. Et aussi, je dois dire que, tout à fait une opinion subjective, bien sûr, je pense que les États-Unis ne s'engageront pas à fond pour soutenir justement l'Arabie Saoudite. Je crois que sans se retirer, ils diminueront leur présence au profit de la continuation, disons, d'une sorte de guérilla qui épuisera le Yémen. C'est une attitude de lâche,
d'accord,
bien sûr, mais je crois qu'elle est envisagée.
Tout à fait. Luc Michel, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Rebonjour. Notre liaison a été coupée. Alors, Pierre d'Ortiguier pense que la coalition, la soi-disante coalition Riyad-Washington-Londres, cherche à tout prix de diviser complètement le pays. Alors, comment va profiter cette division à la coalition?
Écoutez, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a tout d'abord ce qu'on peut appeler une guerre stratégique du côté des Saoudiens, mais également, il faut prendre en compte que les gens qui ont tiré les barreaux du feu de la guerre du Yémen, ce sont les Émiratis. Les Émiratis, qui étaient des alliés secondaires des Saoudiens, ont émergé de la guerre du Yémen comme une grande puissance maritime ultra-socratique. Cette puissance rayonne depuis les Gorges des Sirtes-en-Unis et surtout Cameroun, elle est alliée à la puissance maritime française et se cause aujourd'hui une politique d'occupation par la guerre des ports du Sud-Yémen, dans lequel ils ont réalisé le vieux montage de la possession du Sud-Yémen, comme il existait dans les années 60. Mais que Gorba est présente dans le port de la Somalie, du plus grand de la Somalie, où elle capte la partie moyenne financière. C'est cela qu'il faut retenir. L'agenda stratégique de l'Émiratis, il est différent, évidemment, de celui des Saoudiens. Le Yémen n'a pas seulement à prendre avec les Saoudiens et les Américains, mais également ce qu'on peut appeler la stratégie d'ailleurs. Il faut aussi savoir qu'en Libye, les Émiratis ne sont pas du côté américain, puisqu'ils soutiennent Haftar et le Calentico.
Oui. Pierre d'Ortiguier, j'espère que vous avez pu entendre ce que...
C'est très précieux ce qu'a dit M. Michel, comme toujours, mais vraiment très précieux. Malheureusement, je ne l'ai pas très bien entendu à cause de la... à cause du son.
Oui, mais, Pierre d'Ortiguier... tout à l'heure, vous avez évoqué la question de Riyad, qui, c'est une première, a demandé à Téhéran de jouer un rôle de médiateur pour arrêter la progression des Houthis. Que pensez-vous?
Oui, c'est tout à fait compréhensible de la part de Riyad. Mais Riyad sait très bien que, en effet, elle peut penser l'obtenir, mais ce n'est pas réaliste. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, derrière ce langage, disons, cette négociation, disons, qui n'est qu'un point de départ, se cache, il faut voir la finalité, le but. Le but, c'est que ce que cherche l'Arabie Saoudite, ce qu'elle peut espérer, c'est une modification du conflit, et non pas un arrêt du conflit. Elle peut disons, modifier, elle veut modifier, disons, la résistance qui lui est faite au Yémen, elle veut l'adoucir. Elle pense que l'intervention de l'Iran va dans ce sens. Mais quand même, l'Arabie Saoudite est réaliste et ses conseillers américains aussi. Ils savent très bien que ça ne peut pas être obtenu de cette façon. C'est une négociation. Il faut voir la direction, non pas des arguments d'une négociation, des arguments de départ, mais il faut voir l'orientation que veulent justement lui donner les Saoudiens et les Américains. Je crois que ils espèrent évidemment que la République islamique d'Iran, ne soutiendra, diminuera son soutien, oui, mais ne peut pas non plus. Ils savent très bien que politiquement et de d'autres manières, ils ont affaire quand même à une résistance, à une opposition très forte, très armée, très aguerrie au Yémen, dont votre exposition justement tout à l'heure là a marqué les traits, bien sûr. Donc je crois qu'ils veulent orienter cette guerre. Ils ne veulent pas terminer cette guerre par une capitulation ou autre, mais ils ont les seuls outils qu'ils ont entre les mains. Ce ne sont pas des outils militaires, contrairement aux apparences. Ce sont des outils politiques. Ils jouent sur la division, ils jouent sur les rivalités. Ils ont l'idée que cette guerre est une guerre perpétuelle. Vous savez, moi-même, j'ai eu l'occasion de dire, disons que je me souviens de mon enfance aussi, de mon adolescence, disons, de cette guerre que je suivais avec l'intervention égyptienne, je me rappelle, entre le sud Yémen et le nord Yémen. Et la place que prenait, qu'occupait à cette époque-là dans le conflit de l'Arabie Saoudite. C'est donc une guerre. En fait, ce qu'ils veulent empêcher, je crois, c'est la formation d'une. Je parle du clan américano-saoudien, la formation d'un Yémen qui puisse jouer un rôle économique important dans la région. Et surtout, en fonction des. C'est quand même pas si éloigné que cela, en fonction des transformations de l'Asie, des transformations en particulier de l'économie, du poids que fait peser l'économie chinoise. Je crois que les Américains, je sais bien que ça paraîtra éloigné à beaucoup d'auditeurs, mais les Américains sont préoccupés, nous l'avons vu par les événements qu'ils ont touchés en France, là, avec l'affaire des sous-marins, sont très occupés de cette affaire d'Asie, de cette affaire du containment, comme on dit, de la puissance chinoise. Et donc, je crois que ce qui se passe, les changements que les Américains veulent imposer, y compris envers leurs alliés, voyez-vous, et les négociations qu'ils peuvent avoir avec la République islamique d'Iran, sont évidemment fonction de ce souci américain également, qui à mon avis, devrait, entre guillemets, bien sûr, lâcher le Proche-Orient. Je crois que la nouvelle politique israélienne semble suivre la politique américaine, je le dis, et que tous les soucis américains sont justement dans cette zone du Pacifique. Je ne dis pas qu'ils ne s'occupent que de cela.
D'accord.
Mais ils ne peuvent pas, disons, intervenir sur deux plans différents. Ils sont obligés, peut-on dire, de faire des concessions. Et que la lutte des Mouvement Ansarallah, bénéficie quand même de cette nouvelle politique américaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent tirer des avantages d'une résistance armée de plus en plus,
tout à fait, d'accord.
Affermie. Voilà. Il faut voir l'articulation des deux plans politiques et du plan, disons, purement militaire.
Oui. Luc Michel, alors Pierre Dortigui a parlé tout à l'heure de la modification de la guerre au Yémen. Est-ce que cette modification est due à l'avancée donc de forces de la résistance d'Ansarallah qui ne cesse d'accumuler des succès en détruisant des drones et même récemment un F-15 dont le pilote a été capturé?
Oui, c'est le nouveau succès de la guerre hybride telle qu'elle est pratiquée par les Iraniens dans tout le Proche-Orient. Tant que la guerre du Yémen a été une guerre classique qui opposait des forces militaires à des forces militaires qu'on peut qualifier de pareilles tactiques au Yémen, évidemment, la différence de poids économique, financier, militaire des Occidentaux et des Saoudiens ne permettait pas la victoire. Depuis que la guerre asymétrique est menée, la guerre hybride, c'est-à-dire avec un acteur non étatique qui est Ansarallah, qui est l'équivalent yéménite du Hezbollah, évidemment, c'est une guerre multidimensionnelle qui prend des vitesses des Occidentaux. Mais moi, je ne partage pas l'optimisme du professeur Bourdigny sur le retrait américain. Au contraire, contrairement à Donald Trump, Biden est prêt à passer à l'agression militaire contre l'Iran. Et ça va avoir des répercussions au Yémen. Il y a eu la visite de Naftali Bennett comme premier ministre israélien aux États-Unis. Et ensuite, il y a eu la visite de Lapid, le ministre des Affaires étrangères, qui a rencontré Blinken il y a quelques jours. Les Américains ont précisé que toutes les options étaient sur la table concernant la reprise des négociations de Genève. Par toutes les options, ils entendent également l'inclusion de l'option militaire, c'est-à-dire des frappes sur l'Iran. C'est assez inquiétant et on peut craindre que, justement, pour se débarrasser du problème proche-oriental, les Américains ne veulent sur une politique de tout en avant. Cette nouvelle administration Biden-Kamala Harris, elle est beaucoup plus dangereuse que la précédente. C'est les mêmes dossiers, les mêmes alliances, mais ce sont des gens, ils l'ont démontré dans le passé. N'oubliez pas que les démocrates, ce sont les gens qui ont fait l'agression contre la Somalie libyenne, contre la Syrie, qui ont démultiplié les agressions. Ce sont des gens qui ne reculent pas devant la guerre.
Pierre Dortiguier, votre réaction, je vous prie. Est-ce que la politique de Biden est plus dangereuse que celle de Trump?
Oui, je reconnais en effet que s'il y a une adaptation de la stratégie de M. Biden de son groupe démocrate que vient de désigner M. Michel, il est certain que politiquement, disons, enfin, les intentions, si j'ai pu dire, de politique de ce groupe de Biden sont beaucoup plus dangereuses que celles de l'administration précédente. En effet, ils sont d'ailleurs tout à fait dévoués aux intérêts sionistes, bien sûr, beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus, disons, hypocrites. C'est-à-dire qu'ils ont, ils peuvent, disons, à la fois quand ils se retirent quelque part, comme ils ont fait de l'Afghanistan, par exemple, c'est pour y laisser, si je puis dire, des pièges. Et leur hostilité, et M. Michel a raison, ça, là-dessus, ça a été toujours ma conviction, le camp démocrate, disons, aux États-Unis, pour être clair, est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus agressif que ne le peut l'être le clan républicain. Ça, disons, je fais la distinction démocrate-républicain, qu'on peut quand même faire, qui est superficielle, disons, mais elle répond quand même à une réalité. Et donc, il faut se méfier, c'est-à-dire qu'il y a des concessions, à mon avis, à court terme, de la part de l'administration Biden. Mais cela n'empêche qu'il y a toujours une visée offensive à long terme. Et je reconnais, en effet, sur le plan, je vais dire subjectivement, de façon de dire, mais que c'est une administration dont il faut se méfier. Bien sûr, elle est plus agressive, mais elle est aussi plus rusée, voyez-vous. Et donc, en ce sens, elle est à craindre. Mais en même temps, disons, elle montre qu'elle doit montrer quand même certaines faiblesses. Et le propre d'une résistance, vous savez, c'est comme on dit, c'est de tenir bon. Donc il faut que ceux qui négocient avec les Américains, ceux qui négocient quand on négocie avec l'Arabie Saoudite, il faut comprendre qu'effectivement, il y a ce noyau des États-Unis, ce noyau démocrate, il faut le dire, avec ou sans guillemets, qui est effectivement très dangereux, et à court terme, et surtout à long terme. Mais il est possible que dans le court terme, il y ait en effet, disons, des accommodements possibles, mais ceci ne supprime pas, en tout cas, même les succès militaires, disons, dont nous parlons, dans ce cas-là, ne supprime pas l'agressivité et les projets d'agression, bien sûr, qui sont, comme on dit, vieux comme ce système américain, qui, vous savez, avec les démocrates, justement, avec Roosevelt, a donc, disons, mis dans son camp l'Arabie Saoudite et a pris, disons, le Proche-Orient pour son propre territoire, voyez-vous, pour un territoire d'exploitation.
Luc Michel, Ansarallah tient bon, n'est-ce pas?
Ansarallah tient bon et elle a la seule stratégie possible. Il faut savoir qu'il faut une pression maximale sur le maillon faible de la coalition occidentale. Le maillon faible, ce ne sont pas les États-Unis. Ce ne sont pas les Émiratis avec leur alliance avec Paris. Le maillon faible, ce sont les Saoudiens. Les Saoudiens se rendent compte, comme on disait en France au XVIIe siècle, qu'ils ont travaillé pour le roi Prusse au Yémen, pour leur rivaux Émiratis. Et donc, il faut continuer à mettre la pression. C'est là-bas que l'espoir est à attendre.
Oui, tout à fait. Eh bien, Luc Michel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes géopoliticien depuis Bruxelles. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir donc répondu à nos questions de l'émission Le Débat. Merci pour votre fidélité. Au revoir.
L'agenda vert, ou comment cette crise énergétique est différente de toutes les autres. Le prix de l'énergie explose à l'échelle mondiale. Loin d'être accidental, il s'agit d'un plan bien orchestré visant à faire s'effondrer l'économie mondiale industrielle qui a déjà été affaiblie de façon spectaculaire par près de 2 ans de quarantaine ridicule due au Covid et les mesures connexes. Ce à quoi nous assistons, c'est à une explosion des prix des principales énergies que sont le pétrole, le charbon et maintenant surtout le gaz naturel. Ce qui différencie cette situation des chocs énergétiques des années 1970, c'est que cette fois-ci, elle se développe alors que le monde de l'investissement des entreprises, utilisant le modèle frauduleux d'investissement vert ESG, désinvestit dans le pétrole, le gaz et le charbon du futur, tandis que les gouvernements de l'OCDE adoptent des énergies solaires et éoliennes horriblement inefficaces et peu fiables, qui assureront l'effondrement de la société industrielle, peut-être dès les prochains mois. À moins d'une remise en question spectaculaire, l'Union européenne et les autres économies industrielles sont en train de se suicider économiquement de manière délibérée. Ce qui, il y a quelques années seulement, était considéré comme évident, c'est que la garantie d'une énergie abondante, fiable, efficace et abordable définit l'économie. Sans une énergie efficace, nous ne pouvons pas fabriquer de l'acier, du béton, extraire des matières premières ou tout autre produit qui soutient nos économies modernes. Au cours des derniers mois, le prix mondial du charbon destiné à la production d'électricité a doublé. Le prix du gaz naturel a augmenté de près de 500%. Le pétrole se dirige vers les 90 dollars le baril, son prix le plus élevé depuis 7 ans. Il s'agit là d'une conséquence prévue de ce que l'on appelle parfois la grande réinitialisation de Davos ou la folie du programme vert zéro carbone. Il y a une vingtaine d'années, l'Europe a entamé une transition majeure vers les mal nommées énergies renouvelables ou énergies vertes, principalement le solaire et l'éolien. L'Allemagne, le cœur de l'industrie européenne, a mené la transformation avec Energiewende mal conçue de l'ancienne chancelière Angela Merkel, où les dernières centrales nucléaires allemandes fermeront en 2022 et où les centrales au charbon sont rapidement éliminées. Tout cela s'est maintenant heurté à la réalité. L'énergie verte n'est pas du tout en mesure de faire face à d'importantes pénuries d'approvisionnement. La crise était entièrement prévisible. Avec le verrouillage généralisé de l'industrie et des déplacements en 2020, la consommation de gaz naturel de l'Union européenne a chuté de façon spectaculaire. Le principal fournisseur de gaz de l'Union européenne, le russe Gazprom, dans l'intérêt d'un marché ordonné à long terme, a dûment réduit ses livraisons sur le marché de l'Union européenne, même à perte. Un hiver 2019-2020, exceptionnellement doux, a permis au stockage de gaz de l'Union européenne d'atteindre son maximum. Un hiver long et rigoureux a pratiquement effacé ce maximum en 2021. Contrairement à ce que prétendent les politiciens de l'Union européenne, Gazprom n'a pas fait de la politique avec l'Union européenne pour forcer l'approbation de son nouveau gazoduc Nord Stream 2 vers l'Allemagne. Lorsque la demande de l'Union européenne a repris au cours des 6 premiers mois de 2021, Gazprom s'est empressé d'y répondre et même de dépasser les niveaux records de 2019, et ce même au détriment de la reconstitution des stocks de gaz russe pour l'hiver à venir. Alors que l'Union européenne est désormais fermement engagée dans un programme d'énergie verte, Fit for 55, et qu'elle rejette explicitement le gaz naturel comme une option à long terme, tout en tuant le charbon et le nucléaire, l'incompétence des modèles climatiques des groupes de réflexion qui justifiaient une société électrique 100% sans CO2 d'ici 2050 s'est imposée. Alors que BlackRock et d'autres investisseurs boycottent ExxonMobil et d'autres sociétés énergétiques en faveur de l'énergie durable, un hiver exceptionnellement froid et long en Europe et un manque record de vent dans le nord de l'Allemagne ont déclenché un achat panique de gaz sur les marchés mondiaux du GNL début septembre. Le problème, c'est que le réapprovisionnement est arrivé trop tard, car la plupart du GNL, normalement disponible en provenance des États-Unis, du Qatar et d'autres sources, avait déjà été vendu à la Chine. Une politique énergétique tout aussi confuse, notamment une interdiction politique du charbon australien, a entraîné des fermetures d'usines et un ordre récent du gouvernement de se procurer du gaz et du charbon à tout prix. Le Qatar, les exportateurs de GNL américains et d'autres ont afflué vers l'Asie, laissant l'Union européenne dans le froid littéralement. Ce que peu de gens comprennent, c'est comment les marchés de l'énergie verte d'aujourd'hui sont truqués pour profiter aux spéculateurs comme les fonds spéculatifs ou les investisseurs comme BlackRock ou Deutsche Bank et pénaliser les consommateurs d'énergie. Le prix phare du gaz naturel négocié en Europe, le contrat à terme TTF néerlandais, est vendu par l'ICE Exchange basé à Londres. Il spécule sur ce que seront les futurs prix de gros du gaz naturel dans l'Union européenne dans 1, 2 ou 3 mois. L'ICE est soutenu par Goldman Sachs, Morgan Stanley, la Deutsche Bank et la Société Générale, entre autres. Le marché est constitué de ce que l'on appelle des contrats à terme ou des produits dérivés sur le gaz. Les banques ou d'autres acteurs peuvent spéculer pour quelques centimes par dollar, et lorsque l'on a appris que les réserves de gaz de l'Union européenne pour l'hiver à venir étaient faibles, les requins de la finance ont commencé à se nourrir. Au début du mois d'octobre, les prix à terme du gaz néerlandais TTF avaient explosé de 300% en quelques jours seulement. Depuis février, la situation est bien pire, puisqu'une cargaison standard de GNL de 3,4 trillions de BTU coûte désormais 100 à 120 millions de dollars, alors qu'à la fin du mois de février, son coût était inférieur à 20 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 500 à 600% en 7 mois. Le problème sous-jacent est que, contrairement à ce qui s'est passé pendant la première partie de l'après-guerre, depuis la promotion politique des énergies renouvelables, solaires et éoliennes, peu fiables et coûteuses, dans l'Union européenne et ailleurs, par exemple au Texas en février 2021, les marchés des services publics d'électricité et leurs prix ont été délibérément déréglementés afin de promouvoir les alternatives vertes et d'évincer le gaz et le charbon sous l'argument douteux que leurs émissions de CO2 mettent en danger l'avenir de l'humanité si elles ne sont pas réduites à zéro d'ici 2050. Les prix supportés par le consommateur final sont fixés par les fournisseurs d'énergie qui intègrent les différents coûts dans des conditions de concurrence. La façon diabolique dont les coûts de l'électricité dans l'Union européenne sont calculés, prétendument pour encourager les énergies solaires et éoliennes inefficaces et décourager les sources conventionnelles, et que, comme le dit l'analyste français de l'énergie, Anthony Haya, la centrale la plus chère parmi celles qui sont nécessaires pour couvrir la demande, centrale marginale, fixe le prix de chaque heure de production pour l'ensemble de la production mise aux enchères. Très chers auditeurs, la prochaine fois, nous poursuivons la suite de cette analyse. Merci de votre écoute et au revoir.
Thank you.